Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans Remède à la mélancolie, une émission préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Djoubaka. Aujourd'hui à la technique, David Federman. Et la gourmandise du jour date du XVIe siècle. C'est un dessin de l'artiste à qui l'on doit la plus belle gravure qui soit sur la mélancolie, Albrecht Dürer. Le dessin en question est un autoportrait qu'il a envoyé à un médecin pour obtenir un diagnostic à distance. On voit un Dürer christique et pratiquement nu, pointant son index vers son flanc gauche sur lequel se superpose un cercle jaune translucide. Et au-dessus du dessin, on peut lire « Là où est la tache jaune, à l'endroit désigné par le doigt, c'est là que je souffre ». Les historiens crurent longtemps que Dürer avait contracté la malaria, mais des recherches récentes affirment qu'il s'agissait en fait de la syphilis. Vous êtes rassurés, bon, ce ne sont pas ces maladies au nom de ravissantes naïades qui nous intéressent. Non, la beauté de ce dessin, c'est que l'endroit pointé par Dürer correspond exactement à la rate, soit le siège de la mélancolia, la bile noire. Nous mettrons l'image sur le site dès la fin de cette émission afin que vous puissiez faire un bilan de santé. Aujourd'hui, notre apothicaire de l'âme est un chanteur et compositeur qui transforme les couleurs, les textures et les bruits du monde en symphonies envoûtantes. Ses morceaux ont des durées aventureuses et ses textes sont niellés d'onirisme. Alors, j'ai appris le mot niellé cette année, alors j'avais très envie de le partager avec vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça veut dire incruster des ornements, de l'émail noir par exemple, sur du métal précieux, c'est un terme d'orfèvrerie. Voilà, c'est fait. Le démon de la composition musicale s'est emparé de notre invité par le biais d'une console de jeux vidéo qu'il fréquentait assidûment afin de se tenir à distance de toute activité sportive et pour éviter la transpiration à laquelle, paraît-il, il réagirait mal. Ajoutons qu'il enseigne la vidéo et le son à l'atelier de Sèvres et considère sa musique comme un monstre invisible pour l'œil humain, à l'intérieur duquel il n'est qu'un minuscule explorateur. Bonjour Flavien Berger.
Bonjour Eva.
Alors d'abord, vous qui êtes un spécialiste des sons, je vais vous demander de nous faire entendre le bruit de votre âme. Vous avez le droit à tous les bruits, mais aucun mot.
Ouais, c'est un mélange de frottement et de sifflement.
Allez-y. C'est un hibou perdu dans une plaine désertique.
Ouais, c'est vraiment le réveil du dimanche matin. C'est un peu la bouilloire, en fait.
Ah oui, c'est vrai.
Au loin, mais le bouilloire du siècle dernier.
Bah évidemment, ça s'entend immédiatement. Alors avant d'être tourneboulé par l'euphorie, débarrassons-nous du mal. Quels sont vos rapports, Flavien Berger, avec la mélancolie ?
C'est un petit aller-retour. Je pense que pour moi, dans mon cas, pour être mélancolique, il faut qu'il y ait des aventures vécues qui manquent au moment où elles ne le sont plus. Donc c'est quand on vit quelque chose d'intense, quand on vit quelque chose d'inattendu, quand on vit quelque chose de surprenant ou sur le moment où on est dans le présent. On s'en nourrit lorsque le présent est un peu plus plat ou un peu plus gris, quoi. Donc la mélancolie, c'est un aller-retour entre de l'intensité et de la platitude.
C'est presque une nostalgie, en fait. Vous regrettez quelque chose d'intense qui est survenu?
Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de regret. C'est plus comme une espèce de palette qu'on va récupérer. On va récupérer des moments sur cette palette. Mais non pas pour les regretter et pour se dire que c'était bien, pour en faire, pour en reparler, ou pour en faire des histoires, ou pour en faire des moments dans une narration.
Mais donc vous conviez ces souvenirs pour en faire un acte créateur. Est-ce que, je vais être beaucoup plus prosaïque, ça vous arrive d'être très triste sans aucune raison?
Oui.
Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Je me blottis.
Dans une couette?
Non, contre quelqu'un.
Ah oui ? N'importe qui dans le métro.
Première personne venue. Il y a un lien avec le physique, c'est-à-dire que je me dis que si ce moment arrive et qu'on est très triste et on ne sait pas pourquoi, c'est qu'au-delà de l'intangible, il y a quelque chose de physique qu'il faut récupérer. Donc je me nourris bien, ou je dors bien, ou je fais de l'exercice physique pour le coup. Ou je fais vivre à mon corps quelque chose qui le fait sortir de cet instant un peu plat, quoi.
Merci, ça y est, on s'est débarrassé du triste. J'annonce les réjouissances. Dans quelques instants, Flavien Berger, vous allez convoquer le poète belge Achille Chavet, des bruits ambiants, le collectif Sin, le géochrome mécane de Paul Lafollet, des chansons d'oiseaux, de la cumbia, une molaire fantastique, l'artiste et comédien Régis Watts, des fleurs et un voyage dans le temps. Mais d'abord, on écoute l'un de vos derniers morceaux. C'est la reprise du titre « Je pleure tout le temps » de Véronique Vincent et Aksak Maboul sur l'EP homonyme sur le label Crammed Disc, disque plein à craquer.
J'aime un affreux indifférent, mine de rien qui fait semblant. J'aime un vrai ectoplasme errant qui se noie dans un verre de blanc. Je pleure tout le temps, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps, 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 je pleure.
On entend, c'est votre reprise de la chanson « Je pleure tout le temps » qui sied parfaitement à cette émission, Flavien Berger. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous voici sur le point d'effectuer un voyage dans le temps.
Je voudrais vous poser une question, monsieur Rider.
Je vous en prie.
Je suppose que vous aviez de bonnes raisons pour vouloir vous suicider.
Mais oui.
Mais on vous a tiré d'affaire. Cela a peut-être tout remis en question.
Pour qui?
Pour vous.
Non, ça n'a rien changé. Vraiment.
Vous recommenceriez de votre plein gré.
Je vois le coma idéal, hein? Le volontaire qui ne tient plus à la vie. Et si j'accepte, combien ai-je de chances de survivre?
10 sur 10 si vous étiez une souris.
1968, le film de science-fiction « Je t'aime » d'Alain Resnais, que vous avez choisi, Flavien Berger, pour, je cite, « l'amour dans le fantastique ». Et je vous laisse nous raconter l'histoire.
Mais c'est l'histoire, elle est pas chronologique, puisque de toute façon, ça se mord un petit peu la queue dans le scénario, mais on propose à quelqu'un de devenir, en effet, cobaye pour des expérimentations sur le voyage dans le temps. Et on le fait, du coup, on sait pas pourquoi, mais ce mec-là a été rescapé d'un suicide. Et
Claude Riche.
Et on le lance comme ça dans un voyage dans le temps, et il revit, en fait. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il revit les choses qu'il a déjà vécues. Et là, donc, au niveau du scénario, c'est un trait de génie, parce qu'on, du coup, on va revenir très lentement vers le début du film, qui est pourquoi il s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc le fantastique et même la science-fiction sert un scénario d'histoire d'amour, en fait, où on fait des allers-retours entre de la technologie ou de l'imaginaire et des choses de la vie de tous les jours qui sont des prises de bec, qui sont aussi des espèces de moments intenses de début de relation, lorsqu'on est subjugué par quelqu'un et on sait pas trop pourquoi, et puis, enfin voilà. Et donc, c'est ce genre de scénario que j'aime bien, moi, où, à la fois, on propose au spectateur un univers qui a été complètement créé, voilà, on voit une machine à voyager dans le temps de l'époque qui est super organique et trop belle. Et puis voilà, et puis une histoire d'amour hyper intense, hyper belle entre deux personnes. Et puis voilà, après, c'est même une expérimentation un petit peu, ce film, parce que il propose la sempiternelle histoire, mais dans une narration un petit peu tournée boulée, quoi.
Alors, les scénaristes, c'est Alain Resnais et Jacques Stenberg. Et c'est drôle parce que je sais que vous appréciez Jodorowsky. Et Jacques Stenberg, il a participé à la fondation du mouvement Panique avec Topor et Arrabal et Jodorowsky en 62. Et c'est un film aussi qui est à la fois très drôle, il y a des dialogues drôlatiques, et très mélancolique. Ça parle de meurtre, de suicide, de fin d'amour. Mmh. Et donc le héros, Claude Rich, il a cette fiancée dont il est fou amoureux, Catherine, qui parle, moi je trouve, d'une façon très agaçante, qui s'est suicidée dans la vraie vie, je l'ai découvert en préparant cette émission, et qui a des pensées morbides pendant tout le film, et il n'arrive pas à l'en détourner, en fait. Non. Et il y a cette discussion folle où il lui dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « j'ai peur », il lui dit « tu as peur de mourir ?» Elle dit « non, justement, j'ai peur de ne pas mourir ». C'est très déprimant aussi comme film.
Ah ouais, c'est hyper intense, mais il y a des espèces de percées fulgurantes de réalité qui font froid dans le dos, et puis en même temps il y a des moments où ils sont un petit peu légers, comme ça fait des zigzags, mais c'est pas c'est léger, mais voilà, c'est pas vulgaire, quoi. C'est
vous qui faites du montage de son et de la musique. Il y a un montage musical très très important dans ce film, parce qu'en fait il est coincé dans son passé et il y revisite des minutes de façon totalement aléatoire.
Ah ouais, c'est fou.
Et la bande son est incroyable.
Ah ouais, elle est incroyable.
Bon, c'est extraordinaire, il faut le voir absolument. Je t'aime, d'Alain Resnais. Et il y a quelque chose d'amusant aussi, Flavien Berger, c'est que tout se recoupe un peu dans vos remèdes. Vous avez travaillé avec Myriam Benhamy, une réalisatrice que vous connaissez depuis vos études.
Tout à fait, ouais.
Et elle dit que votre musique est très cinématique. Et vous faites aussi, par exemple, la musique de formidable court-métrage de Céline Deveau. Je tiens à la citer parce que c'est extraordinaire ce qu'elle fait.
Ah oui, oui, elle est géniale.
Elle est géniale, bon ben voilà, ça c'est dit. Et la science-fiction, ça va revenir pendant tous vos remèdes. Je sais que Philippe K. Dick, Asimov, Bradbury, Moebius, ils vous accompagnent.
Ouais.
Et vous faites en musique, je vous ai lu dans une interview, vous faites ce qu'on appelle un time stretch sur un ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez faire durer un son d'une seconde 10 minutes.
Oui,
mais
c'est ça.
En fait, c'est comme si vous faisiez de la musique de science-fiction.
Oui, oui. En fait, c'est depuis qu'on a inventé la synthèse en son. On peut maintenant, au lieu de... Avant, quand on voulait qu'un son dure plus longtemps, on le ralentissait. Du coup, sa tonalité... aller de plus en plus dans les graves. Sauf que maintenant, on peut garder la même tonalité et étirer quelque chose et demander à l'ordinateur de créer des matières qui sont les matières artefacts de synthèse de l'ordinateur. Et en effet, ça, du coup, c'est la musique du futur, un petit peu, puisque c'est un humain et des cartes mères, des circuits imprimés qui font de la musique.
Et des mini-boucles temporelles.
Et des mini-boucles temporelles, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ouais.
J'aimais beaucoup la poésie. J'ai écrit énormément de poèmes. Des recueils entiers que j'ai eu le souci, bien sûr, de déchirer parce qu'ils ne valaient pas grand-chose. Et j'avais vers, disons, 1927-28 absolument abandonné la poésie. Et c'est par la découverte du surréalisme que le sentiment m'est revenu que la poésie n'était pas une chose vaine, qu'elle était susceptible d'enrichir profondément l'homme. Et c'est à partir de cette époque que je me suis remis à écrire.
On entend le poète belge Achille Chavé en 1971 sur la RTBF, soit l'auteur de votre poème consolatoire intitulé « Le pied de la lettre » et dans lequel il est à nouveau question de distorsion temporelle, au début au moins, à laquelle s'ajoute un certain onirisme et une grande sensualité. Je vous laisse nous le lire, Flavien Berger.
Retour sur l'avenir ou retour sur soi-même, aucun ne peut mentir, au centre de son ombre. Évadé de partout, des dunes de corsage, des lunes de corsaires, des pièges de chaleur, des chairs aux yeux de plaie, des plaintes de lumière, mangeurs de fruits éclatés. Aux limites de fièvre, de racines d'arcanes, des arcades de nuit. Buveurs des sèves nues, des attentes plénières. Ta vie porte en écharpe les bras de la bonté. Le temps des horizons t'écharpe entre ses seins.
Comment vous avez découvert ce poète ?
On a un fil de discussion par mail avec mes amis de toujours du lycée. J'ai un ami qui travaille à la BNF, qui s'appelle Arthur, et qui un jour nous a envoyé juste ce texte. Et lui, il écrit aussi, Arthur. Et du coup, j'ai vécu un moment assez étrange en lisant cette beauté. Je ne savais pas si c'était Arthur qui l'avait écrit ou quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai mis un peu de temps à trouver qui l'avait écrit finalement en faisant des recherches sur Internet. Et en fait, je suis tombé sur ce mec, Achille Chavée. Et Arthur avait exprès laissé du mystère autour de l'auteur pour créer en fait de l'envie. Et je trouve une profondeur dans ce poème dingue de simplicité, de mise en rapport entre des mots que j'aime aussi chez René Char. Et j'étais content de découvrir un nouveau surréaliste, quoi.
C'est vrai que c'était Achille Chavée, c'est une figure marquante du surréalisme en Wallonie. Il a participé à la création du premier groupe surréaliste Wallon Rupture. Et en fait, ensuite, il a un peu pris ses distances par rapport au mouvement. Mais on retrouve ce refus des conventions. Il y a beaucoup d'humour aussi, ouais. Beaucoup de paradoxes. Et il y a, et ça ne m'étonne pas que ça vous plaise, Flavien Berger, il y a le rêve, l'irrationnel, l'absolu, le ressenti, un certain lyrisme, un certain romantisme et un certain mal de vivre aussi.
Oui, bien sûr.
Là, par exemple, dans ce poème, il y a un paysage lunaire presque fantastique qui, moi, m'a fait penser à Bradbury ou Lovecraft.
Ouais, il y a de ça. Et puis, en même temps, un truc assez urbain où, finalement, je sais pas, c'est un paysage inatteignable. Enfin, quand même, ça reste... C'est hyper mélancolique, ce poème.
Achille Chavée à découvrir. J'ai lu plein d'autres poèmes, du coup, pour cette émission et c'était avec un réel plaisir. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi.
Rousseau se consolait avec la botanique. Là, on entend Petite fleur d'Henri Salvador et c'est un hommage à l'activité qui vous grise, Flavien Berger. Connaître et collectionner les fleurs. Et vous êtes venu avec un atlas de poche des fleurs de jardin. C'est très joli.
Oui.
Un très joli objet en soi.
Ah oui, il y a des dessins de plein de types de fleurs de jardin, non sauvages. Il y en a plein. Et puis il y a plein de noms latins.
Mais vous les collectionnez ?
Non, mais j'essaye déjà de les apprendre.
D'accord.
Je pense qu'apprendre les fleurs, c'est une pratique hyper importante aujourd'hui.
Pourquoi ?
Parce que ça, c'est une espèce d'humilité face à la nature. C'est très mystérieux, les fleurs. C'est à la fois très sexuel. À la fois, nous, on s'en rend pas compte que c'est une espèce d'appât. Et donc, on trouve ça joli.
Il y a un côté monstrueux.
Il y a un côté très monstrueux. Et du coup, le statut des fleurs change en fonction des jours. Est-ce que c'est joli? Est-ce que finalement, c'est pas obscène?
Ouais.
Et donc, en fait, je me suis rapproché des fleurs parce que je fais des concerts, vraiment, où je vais dans des villes. Et puis, donc, je prends le train, je vais dans des gares, puis des gares, je vais dans des salles de concert. Et très vite, on pourrait rentrer dans une litanie où toutes les villes pourraient se ressembler parce que finalement, l'architecture des flux en France fait que tout se ressemble. Et en fait, du coup, on a trouvé une idée, c'est que avant d'aller dans la salle de concert, on va chez un fleuriste. Et puis on achète des fleurs qu'on donne au public pendant le concert. Et donc, ça me permet, moi, de commencer à apprendre un petit peu les fleurs. Et du coup, j'arrive dans des fleuristes et je leur demande s'ils n'ont pas ce type de fleurs ou ce type de fleurs. On fait des bouquets ensemble. Du coup, j'ai tendance à me souvenir des villes par bouquet.
C'est très joli. Vous nous avez choisi une petite sélection de vos fleurs favorites.
Ben là, il y a des jolis pétales blancs et violets d'une fleur qui s'appelle le Némophile maculé.
Rien que ça, c'est magnifique. Némophile maculé.
C'est super. Ouais,
ça peut être aussi une créature terrible chez Jules Verne.
Ouais, le Némophile, ouais, quelque chose de diabolique. La page suivante, il y a le Convolvulus tricolore, soit.
Oulala.
Belle de jour, liseron de Portugal. Alors là, c'est vraiment un pétale bleu sur la circonférence. Et puis au centre, jaune-blanc, très, très flashy.
Dans un instant, on entendra quelques pluies singulières et l'on découvrira ce qu'est le géochrome mécane sur France Inter.
who's been waiting for a saving grace. I know I'm not the only one who hoped time would pick up the pace. I've been waiting oh so long, I've been waiting oh so long, I've been waiting for a saving grace. I've been waiting oh so long, I've been waiting so long, I've been waiting for a saving grace.
Starling, Laetitia Sadier, Waiting for Grace, dans Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Flavien Berger. Alors, les bruits ambiants, c'est ce qui vous réconforte. Et là, on entend pluie intérieure. Alors, intérieure quand on est à l'intérieur et qu'il pleut dehors, ou une pluie à l'intérieur de son corps?
Je savais que ça allait, ce titre de morceau allait
me
être
faire
un
poser
petit
la
peu
question,
ouais, ambivalent. En fait, c'est là où j'habite en ce moment, il y a une très grande verrière, mais pas en verre, en plastique. Du coup, je voulais écrire ce nom et j'ai failli écrire une plastiquière, mais ça marche pas. Et c'est clairement le bruit sur le toit lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on entend la pluie qui bat en fait sur les parois de là où on est.
Alors voici maintenant la pluie torrentielle. Alors la différence est très subtile quand même.
Nue, hein. Sur le moment, c'était beaucoup plus incroyable. Non, mais ça fait partie des choses qui, moi, me recentrent et me réconfortent. C'est la pluie, en particulier. Là, ça s'est énervé. C'est un petit peu compliqué, mais si je pouvais vivre dans un pays où il pleut tout le temps, je serais hyper ravi.
Ah oui?
Ouais. Après, c'est compliqué parce que c'est pas possible. Et puis, tout le monde serait très triste autour de moi.
Ouais.
Mais, mais j'adore la pluie, quoi. C'est mon phénomène naturel préféré.
Alors, vous avez étudié, Flavien Berger, le design sonore dans une école de création industrielle. Et dans les bruits ambiants, vous citiez aussi la bouilloire que vous avez imitée tout à l'heure et la machine à laver la vaisselle.
Ouais, la machine à laver la vaisselle ou à laver le linge. Mais ça, je pense que c'est plus parce que quand j'étais petit, ma chambre était collée à une machine à laver, à sécher le linge, donc on la laissait tourner la nuit et ça m'endormait. Et puis, machine à laver la vaisselle, c'est souvent, si on est dans la cuisine et que la machine à laver la vaisselle tourne, c'est que généralement c'était un déjeuner cool où on finit les quelques verres qui restent ou le café dans la cuisine, donc on a eu un bon moment, donc en fait c'est réconfortant. J'aime beaucoup quand il y a du bruit, quoi. Quand il y a un élément de bruit un peu constant qui tourne alors qu'on est dans la pièce, il y a des machines comme ça qui sont apparues dans les années 70-80 qui étaient en fait vraiment le départ de ce genre d'objet qui était juste une espèce de petit ampli avec des bruits de vagues ou des bruits de pluie. Et ça, c'était réconfortant. Et puis après, ça a été récupéré par tout ce qui est le zen ou
ouais, voilà, New Age.
Le New Age, exactement. Mais moi, j'adore ces trucs-là.
Alors, il y a eu une expérience qui a été faite aux États-Unis. Ils ont fait, en fait, une pièce spéciale qui absorbe plus de 99,9% des bruits. Genre, on entend le bruit de ses poumons dans cette pièce. Et il paraît que c'est impossible d'y rester plus de 45 minutes, qu'on a des hallucinations, qu'on devient fou.
Ouais, à l'IRCAM, ils ont une pièce comme ça.
Ah oui,
on a eu l'occasion d'y aller. Et c'est vrai que très vite, lorsqu'on s'habitue, c'est comme s'habituer à l'obscurité, il faut s'habituer au silence. On entend très, très vite ses organes. On entend... très vite le bruit de son bide, surtout.
Sur votre album Léviathan, sur le morceau La Fête Noire, vous avez enregistré des bruits d'attraction de fête foraine, non ?
Oui, c'est un supermax. Et en fait, il a fallu attendre la fin de la fête foraine pour entendre le bruit des machines. C'est-à-dire qu'en fait, une fête foraine aujourd'hui, c'est globalement surtout de la grosse musique. C'est du gros hit de l'été, bien compressé, qui tourne sur plein de stands. Et puis en fait, les fêtes foraines, elles peuvent tourner jusqu'à une certaine heure, mais il faut qu'ils coupent la musique parce qu'il y a quand même souvent du voisinage, puisqu'ils sont souvent près de riverains. Et c'est là qu'on entend les cris, les bruits des machines, les moteurs, et c'est ce qu'on entend dans la fête noire. Ouais.
Flavien Berger, vous avez créé avec des amis d'école d'art un laboratoire de recherche sonore, le collectif SINE, qui expérimente autour d'installations musicales et qui est à l'origine de ceci. Alors ça s'appelle la Tramontane, c'est un field recording enregistré par le collectif SINE et sorti chez Pan European Recording. Et alors un field recording de vent, qu'est-ce qu'on entend là en fait? Parce que c'est très précis ce qu'on entend.
Ouais. En fait ce qu'on entend, c'est comme lorsqu'on entend du vent, on entend du vent mais qui s'engouffre quelque part. Et ça c'est la frontière entre la France et l'Espagne, à côté de Banyuls. C'est en fait une tour de transmission, donc c'est clairement une espèce de structure faite de tubes en acier. Donc ça veut dire que c'est vraiment des tuyaux, quoi, c'est ajouré. Et lorsque la tramontane se lève, qui a un vent assez puissant, le vent il s'engouffre dans tous ces tuyaux, et tous ces tuyaux ils ont un certain diamètre, et plus on monte dans la tour, plus les tuyaux rétrécissent. Et tous ces diamètres de tuyaux font des flûtes, en fait. Et le vent s'engouffre dedans et joue de cette tour. Et en fait, la structure fait qu'il y a des résonances structurées aussi dans le son. Et il y a des écarts de matière qui font que les sons aussi, eux, ont des écarts qui résonnent de manière harmonieuse.
Mais vous dites vous émerveillez du monde très facilement. Vous regardez les petites choses, les sons, les fleurs. Là, on entend des choses quand même assez insolites. Et pour cette émission, vous avez choisi un tableau inouï que je ne connaissais pas non plus, sur lequel porte votre mémoire effectuée à l'École nationale supérieure de création industrielle. C'est le géochrome mécane de l'artiste américain Paul Lafollette. Vous avez passé un an à le déchiffrer. Mmh. Vous le qualifiez de puzzle métaphorique, d'herbier fantastique et de labyrinthe de l'esprit. On dirait un diagramme d'ordinateur. En fait, il a fait ça avec de l'encre et de la peinture, manuellement.
Oui.
Qu'est-ce que c'est en fait? C'est sous-titré « The Time Machine from the Earth ».
C'est un plan, un blueprint, un plan de construction en deux dimensions d'une machine à voyager dans le temps imaginée par un artiste américain qui est mort, qui s'appelle Paul Lafollette, qui a un syndrome d'Asperger, donc qui est légèrement autiste sur certains points, et qui en fait est un puits de science et qui a avalé tout, un peu comme un pic de la Mirandole moderne a avalé, je pense, toutes les connaissances humaine, ce qui fait qu'il est fou, parce qu'on ne peut pas avoir autant de savoir.
Et après, je signale juste cette anecdote, après un accident, il a dû se faire amputer d'une jambe et il l'a remplacé par une patte de lion, parce qu'il est lion, en signe astrologique.
Ouais.
Et donc on peut voir des photos de lui où il a une patte de lion, ouais, à la place d'une,
ouais,
jambe.
Il s'est fait faire par les studios d'effets spéciaux hollywoodiens une belle patte de lion qu'il met les beaux jours quand il fait des conférences. Pour être beau. Ouais, non, c'est un personnage extraordinaire. Et donc, son plan, là, son plan pour voyager dans le temps, c'est en fait des mises en relation entre des éléments qui nous servent à comprendre notre monde, ou que ce soit, je sais pas.
Des chakras, la philosophie.
Ouais, un nœud de Moebius mélangé avec un pendule de Foucault.
Voilà. Il y a beaucoup de symboles cosmiques.
Beaucoup de symboles cosmiques, beaucoup de percé entre les dimensions, beaucoup de mélange de choses imaginaires et de choses réelles. Et moi, mon but, c'était de savoir si elle fonctionnait ou pas, cette machine à voyager dans le temps.
Et vous avez trouvé ?
En l'analysant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes que ça.
Ah oui ? Non, mais ça, c'est pas une réponse.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, en soi, c'était déjà. Je me suis rendu compte qu'en soi, c'est déjà un voyage dans le temps parce que c'est. Ça ouvre la conscience qu'on a du temps, de passer du temps à comprendre le temps. Et donc, ça m'a fait aller vers l'hindouisme, ça m'a fait aller vers les sceptiques, ça m'a fait lire des choses sur l'histoire du cosmos. Et en fait, tout ça, quand on mélange tout ça, au bout d'un moment, on a une conscience un petit peu plus exacerbée.
Puis vous êtes toujours tourné vers l'extérieur et pas sur vous-même, justement. Ça, c'est vraiment un remède à la mélancolie, de s'extraire de soi.
Ouais, je pense, ouais.
Il y a une autre chose que vous nous avez fait découvrir et vous dites qu'il y a un travail sur les dimensions comme dans le Géochromécan. C'est une performance de l'artiste londonienne Anna Richards de 2003. Ça s'appelle Bird Song, chanson d'oiseau. Il n'y a aucun enregistrement, donc on va être obligé de l'imaginer. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un plaisir.
Ouais.
En quoi ça consiste ? Je vous laisse nous lire le petit texte qui décrit le projet de cette femme.
Alors, sa pièce s'appelle Blackbird, Blue-Tit Goldfinch, Song Thrush, Woodlark et Wren. Et alors, le texte dit « Les chants de 6 oiseaux différents ont été choisis. La hauteur de chacun de ces enregistrements a été baissée, créant 6 longs passages qui correspondent à ma tessiture. Ils ont été appris et enregistrés note après note, et leur tonalité a été augmenté selon la même proportion avec laquelle il avait été baissé. Ma voix reproduit maintenant le chant d'oiseau originel. »
Où est-ce que vous avez entendu cette performance ? Il paraît qu'elle imite à la perfection le chant des oiseaux.
On ne peut pas s'en rendre compte. Quand on rentre dans la pièce et qu'on entend ce truc-là, on entend des oiseaux. Et c'est que en comprenant la démarche, c'est un petit peu l'art contemporain en fait, c'est un aller-retour entre le vécu et finalement ce qui a été fait et qu'on n'avait pas forcément vu et qu'une fois qu'on a compris, c'est génial. Anna Richards, en fait, j'ai découvert son travail parce qu'elle a été exposée au Palais Tokyo en France en même temps que Paul Lafollette dans une exposition qui s'appelait Chasing Napoléon.
D'accord.
Et en fait,
pour chasser Napoléon.
Ouais, c'était le titre de l'expo. Elle a fait une autre pièce où en fait, elle a justement pris un son de tonnerre, time-stretché le son de tonnerre.
Ouais.
Elle l'a mis en partition. Elle l'a fait jouer par un orchestre symphonique, elle a recompressé le son de tonnerre et elle l'a remis, et on ne se rend même pas compte que c'est plus un son de tonnerre.
Enfin, en 2005, ouais.
Ouais, voilà.
Ça a l'air incroyable. Elle a un site et en fait, elle est assez énigmatique, c'est-à-dire qu'on voit des traces d'elle sur le site de quelques galeries, sur son site à elle et sur des forums d'oiseaux, où elle demande à des gens de décrire les sons des oiseaux.
C'est drôle.
Et ben, dans un instant, on parlera d'un groupe de cumbia mexicain, puisqu'on fait tous les pays aujourd'hui, et d'un livre de science-fiction écrit au Mexique d'ailleurs, juste après ce classique de 1961, repris par Sarah Vaughan en 65, Moon River.
Génial.
Style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. Friend, Moon River, and
to me.
Remède à la mélancolie sur France Inter, nous sommes à présent dans le jukebox intérieur de Flavien Berger. Et je suis ravie de votre premier choix musical parce que c'est un style dont on a peu l'occasion de parler.
Oiga!
Si!
Me podría complacer con una cumbia?
Si, claro! Algo en especial?
No, nada más que esté buena.
Ok, escuche y baila esto que es lo nuevo nuevo.
Suave pa bailar de los Reyes Locos, les Rois Fous, groupe mexicain qui s'est illustré dans la cumbia, ce style originaire de Colombie et du Panama. Flavien Berger, qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est très facile de décapsuler une soirée qui prend pas avec un petit peu de Reyes Locos. C'est des gens très drôles qui font des chansons sur des sujets d'actualité plutôt graveleux la plupart du temps, mais... Voilà, il y a une espèce de patine du fait de que ce soit, ça vient pas de notre pays, que ce sont des sons qu'on écoute pas nous dans notre folklore, et tout à coup, moi, ça me rend hyper joyeux, quoi.
Alors votre deuxième antidote musical est plus triste et rend un peu stone. Passage Omni 1 de Logosanfia, une entité créée en 2003 par l'artiste irano-hollandais Sadra Emati, qui vit aux Pays-Bas et qui porte souvent des masques de lion. Donc ça revient tout le temps quand même, la patte de lion, les masques de lion.
C'est marrant. Là, pour le coup, vous en savez beaucoup plus que moi. C'est un morceau fait avec un seul instrument, en fait, qui s'appelle un omnicorde, qui a été ralenti, je pense.
C'est un instrument de musique électronique inventé par Suzuki en 81.
Ouais, qui reprend en fait l'omnicorde de la folk... qui est un instrument pour le coup acoustique, où on bloque un accord et on le gratte, et puis ça joue. Puis là, ils ont fait la même chose électroniquement dans les années 80. Et je pense qu'il a ralenti, et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on l'écoute au casque, en fait, ça fait vraiment un ping-pong gauche-droite,
c'est vrai.
Panoramique hyper rapide.
Ce morceau, il convoque en tout cas une atmosphère fantastique, et je vous propose d'effectuer une boucle temporelle folle, et de revenir à votre sujet de prédilection, Flavien Berger, la science-fiction. Vous nous avez fait découvrir un roman et son auteur, c'est La Molaire Sacrée de Thomas de Vim.
Non, ça s'appelle Corail maintenant.
Ouais, maintenant, mais quand vous nous avez donné les réponses, c'était La Molaire Sacrée.
Ouais.
Mais alors, je tiens à le remercier parce qu'il a beaucoup participé à la préparation de cette émission.
Ouais.
Et donc, on sait maintenant que ça s'appelle Corail.
Ouais.
Ça a changé de titre. C'est son premier roman. Il a pris une année sabbatique pour le rédiger dans une bibliothèque de Mexico.
Oui.
En fait, la seule façon de se procurer ce livre, c'est assez énigmatique. Il a un site, il faut lui écrire en fait. Et on apprend qu'il a travaillé pour une compagnie maritime, des cabinets de conseil et depuis 4 ans pour une banque.
C'est un personnage assez solaire que j'ai rencontré au Mexique. Encore une fois, on va vraiment faire des tunnels temporels et géographiques. Et qui m'a demandé de mettre ses livres qu'il venait d'écrire et qu'il avait fabriqués dans mon sac, parce qu'il n'avait pas assez de place dans les siens, en partie, donc j'ai dû ramener en France 5 livres. Pour me remercier, il m'en a laissé un, et je suis complètement rentré dans le vortex de son histoire. C'est une histoire d'amour de science-fiction, de voyage hyper inattendu, avec plein de nouveaux mots, plein de nouveaux noms, plein de nouveau type d'envisager l'humanité.
Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est fou dans son écriture, c'est qu'il y a une liberté inouïe dans la narration, il y a plusieurs voix. Ouais. Donc en fait, ça se passe dans un biotope, un système clos de tunnels tapissé de corail qui abrite une colonie humaine. Il y a plusieurs voix narratives. Ouais. Et ça débute avec Clochide, des briseurs de portes. Tous les noms sont extraordinaires. Il va consulter l'oracle pour un problème d'haleine. Et en fait, il se rend compte qu'il doit faire partie du grand plan, alors qu'il n'a pas envie du tout. Mais comme on le menace de lui trancher la gorge s'il ne fait pas son rôle d'élu, il est un peu contraint d'accepter. Et juste avant que vous nous lisiez un extrait, ce qui frappe dans ce livre, c'est qu'il y a des scènes très très dures et très sombres aussi, même gore.
Complètement.
Il y a des scènes sexuelles, il y a beaucoup d'humour, les gens s'appellent Marco Coco, Lobule, Abaras, Ectasme.
Clitorel
évidemment, c'est l'une des héroïnes. Et il y a du plasma au plafond et les bébés naissent dans le corail du biotope.
Ouais.
C'est aussi cosmique, mystique.
C'est super beau, c'est vrai que c'est très violent, c'est très dynamique comme lecture, on va rentrer dans les schémas de la science-fiction type Kadic ou Ursula Le Guin, où on va comme ça voir...
ses influences d'ailleurs.
Voir des sociétés se fonder sur des modes qui sont différents de ceux que notre humanité a connus, et c'est super intéressant. Et puis en même temps, on va être dans une histoire d'amour hyper violente, très trash, et j'ai pas du tout l'habitude de lire des choses aussi crues par moment, et donc ça m'a encore plus, parce que voilà, ça m'a marqué, comme un spectacle qui marque. Est-ce que je voulais
Avec plaisir.
La nonne avait emporté le plateau et la dent, puis un servant avait posé le dé à 8 faces devant Clochilde. Il avait pris l'octaèdre dans sa main droite et après une longue respiration, il avait commencé les jetés rituels. Le doyen prononça à voix haute les résultats du premier lancé. 8. Le second jet donna également un 8, le troisième aussi. Le quatrième à nouveau, lorsque le cinquième lancé d'affilée avait donné un 8, les sages s'étaient penchés en avant avec intérêt. À chaque lancé jusqu'au huitième, le chiffre 8 s'était présenté sur la face du haut.
Alors ce qui est incroyable, c'est que je vous ai dit en antenne, Flavien Berger, mais c'est pas possible, vous connaissez Thomas de Vime, puisque sur votre album Léviathan, il y a un morceau qui s'appelle 888-888-88, et vous m'avez dit que non.
Et non,
c'est un hasard.
C'est un hasard. Du coup, j'ai eu des petits frissons quand j'ai lu ce passage aussi.
Corail de Thomas de Vime, sur le site thomas-devime.fr. Terminons notre exploration par l'homme qui vous fait rire.
What I've learned through PopTech is innumerable, immeasurable, inconsistent, constant, evading, ineffable, incongruous, malfeasant, ilengarnior, izatur ofotanar achtenen udurbe. Mindjam durodju vatala kadarbosti turmegal jelovach. Ich angschluch achte flüm, achte finde achte schöne Mote. Ich liebe dich, ich leflomen, gesanen krank und sonnenschan. Sü scho tau, sü se tschü so. No, so fa si tschü so so. Ha, sün schü san ne sü scha sa sai. Mo san, flo san gi, and fun.
Okay, let's do this.
Il chante, il danse, il improvise, il est absurde, il est drôle, il est surdoué. C'est Reggie Watts qu'on entend lors d'une conférence de 2011 pour PopTech. C'est un comédien, un musicien, un artiste pluridisciplinaire. Et là, sur scène, c'est quelque chose qu'on peut voir aisément sur Internet. Il crée des morceaux en direct, il chante dessus, c'est incroyable.
Quand j'ai commencé à faire des concerts, donc c'était en février 2014, où j'ai dû proposer mon projet en disque... sur scène, j'étais un peu, je savais pas trop vers où aller. Et quand j'ai vu ce mec-là, ça m'a vachement débloqué. Parce qu'il a un setup très simple où il fait des boucles de voix. Et il est constamment entre le concert, pas le stand-up, mais le sketch et l'improvisation, tout le temps. Et le fait qu'il crée de la surprise, il déstabilise. Et du coup, c'est un peu un fils spirituel d'Andy Kaufman, comme ça, qui va tout le temps prendre à contre-pied le code du spectacle. Et donc, ça, c'est une de mes inspirations premières, aussi bien musicales, quoi, parce qu'il chante hyper bien, que pour le live.
Alors, on peut le voir sur Internet en tapant Reggie Watts Best Performance. C'est le lien que vous nous aviez envoyé, Flavien Berger, qui est vraiment très impressionnant. Ouais. Et je voudrais qu'on termine avec trois questions qu'il a déjà posées à des invités, parce que c'est toujours des questions absurdes, incongrues, et personne n'arrive jamais à répondre. Donc voilà, je vous fais ce cadeau.
Ok, d'accord.
La première, si vous étiez un aigle ou un aigle robot, attaqueriez-vous plutôt les gens de jour ou de nuit?
Ouais, de nuit, la vision nocturne, c'est assez beau.
Pensez-vous que tomber soit une chose négative?
Absolument pas.
Pensez-vous que les tortues sont des gens comme les autres, mais en forme de tortue?
Oui, je m'étais déjà fait la réflexion.
Parfait, vous avez tout bon. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Flavien Berger.
Je suis très content, merci beaucoup.
Chers auditeurs, cette émission a initialement été diffusée le 29 mai 2016. Dans un instant, Sylvain Tesson vous emmène sur les traces de Rimbaud dans Un été avec Rimbaud, juste après un titre de la playlist France Inter, La lumière de Pomme.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons. Sous la terre.